Vous écoutez RCM, soyez les bienvenus pour cette nouvelle émission baptisée La Voix de l'Écho, réalisée en collaboration avec la communauté de communes du territoire de Lunéville à Baccara. Une série d'émissions décentralisées, avec un studio installé au cœur de sociétés insoupçonnées à l'aura nationale, voire internationale, toutes basées sur le territoire du Lunévillois. Pour nous en dire plus sur le concept, j'accueille Bruno Minuciello, président de l'intercommunalité, et Jacques Lamblin, premier vice-président, délégué au développement de l'industrie, la santé et la promotion du territoire. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Vincent.
Alors, Monsieur Minuciello, quel est votre objectif avec cette série d'émissions dédiées donc à l'innovation et l'économie sur le territoire ?
L'objectif de cette programmation sur toute une saison, c'est la promotion du savoir-faire du territoire et notamment du savoir-faire industriel. Nous avons des pépites qui gravitent sur le territoire et ce que nous souhaitons, c'est que le faire connaître et le faire connaître au plus grand nombre de publics.
Histoire de rappeler donc à la population qu'un territoire vibre aussi au rythme de l'économie et pas que du tourisme aussi. Voilà, il y a des pépites qu'on va mettre en lumière. Monsieur Lamblin, quand vous étiez député, vous avez sillonné le territoire et finalement pour vous, ces sociétés tournées vers l'innovation, vous en connaissiez déjà certaines, vous les connaissiez
oui.
Déjà.
Ouais. Ouais. Bien sûr que je les connaissais, Je les ai visitées, c'est pas la première fois que je viens où nous sommes aujourd'hui. Et quand on est élu, on est assez rapidement conscient de la diversité, de la richesse, même dans un territoire comme le nôtre, de la richesse des initiatives qui peuvent être prises. Il y a en effet un esprit d'entreprise, un esprit d'initiative qui est beaucoup plus développé qu'on ne peut l'imaginer en France.
Mmh. C'est une fierté que la population doit découvrir aussi pour véhiculer une image forte du territoire, parce qu'on le sait toujours, c'est la population le premier ambassadeur d'un territoire.
Bien entendu, mais ça va même au-delà de cela, c'est de prendre conscience de ce qu'il est possible de réaliser avec les moyens qui sont à notre disposition dans notre pays. Et l'entreprise où nous sommes aujourd'hui, vous allez les entendre, a pratiquement inventé la raison d'être de cette entreprise. Ça part de découverte et d'une volonté de développer sur le plan industriel une production qui s'appuie sur ces découvertes assez récentes.
Eh bien effectivement, on va en parler. C'est donc la première émission. Dans quelques minutes, on va découvrir où nous sommes et on va en parler avec les fondateurs, cofondateurs de cette société. Merci et on se retrouve tout à l'heure pour débattre de l'innovation et de l'économie sur le territoire. Merci. La Voix de l'Écho sur RCM pour cette première émission. Nous sommes au cœur des serres de Plant Advanced Technologies, une société de biotechnologie végétale produisant des actifs innovants et rares à destination des marchés cosmétiques, pharmaceutiques et agrochimiques. Voilà. Et pour nous en parler, nous avons avec nous Jean-Paul Feff, président fondateur de la société, appelé plus simplement PAT, et Frédéric Bourgault, directeur général délégué à la recherche et à l'innovation et cofondateur. Bonjour.
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 Alors, évidemment, on va faire connaissance, donc on aime bien savoir comment est née l'aventure de cette société.
Écoutez, l'aventure est née, en fait, grâce à un brevet que Frédéric, et peut-être Frédéric va l'expliquer un petit peu plus tard, un brevet que Frédéric et son équipe ont pris au sein de l'université sur une technologie qu'on appelait trivialement plante à traire. Et ce brevet a été pris en 99 et moi je découvre cette technologie par un entrefilet sur le site de l'INRA qui était lié à l'université, qui est lié à l'université. Et j'apprends ça en 2004 et je me dis tiens, qu'est-ce que c'est cette technologie plante à traire là? C'est très intéressant et j'appelle Frédéric Bourgault, d'abord l'INRA, puis après Frédéric Bourgault et qui m'explique et on se rencontre très rapidement et ça c'était au mois d'avril 2004.
Oui.
Voilà. Frédéric, tu peux peut-être expliquer.
Allez-y.
Oui, donc la découverte et l'invention qu'on a réalisée donc, à l'université consistait en fait à pouvoir récupérer des substances actives qui sont naturellement présentes dans les racines des plantes sans avoir besoin de détruire ces racines et donc par conséquent les plantes. Donc c'était une approche assez, enfin très, très novatrice, assez révolutionnaire. Donc on a pris le brevet à la fin des années 90, à une époque où on ne parlait pas encore de tellement de création d'entreprises à partir des innovations, des inventions qui pouvaient être faites dans le milieu de la recherche qu'on peut appeler académique, l'université ou les grands instituts de recherche nationaux. Par chance, le vent a tourné dans ces années-là, notamment avec un contexte législatif qui a évolué. Parce que ce qui était interdit avant, on nous interdisait à nous les chercheurs finalement de participer au développement économique. Ce qui était interdit avant est devenu souhaitable et désiré par notre assemblée et les Français à l'orée des années 2000, à la fin des années 90. Et donc on a été un peu pionnier dans cette aventure. Et par la rencontre avec Jean-Paul, donc ici présent, on a décidé de se lancer ensemble avec une troisième personne qui s'appelle Eric Gontier, qui faisait partie aussi de mon laboratoire à l'université. Et ensemble, donc, on a créé cette société en 1er juillet 2005. Et on est typiquement ce qu'on appelle, alors en anglais, une spin-off, c'est-à-dire un bourgeonnement de l'université et de l'INRA, qui s'appelle maintenant INRAE. Et donc on a poursuivi notre développement dès les premières années de création, d'abord au sein de l'université qui nous a hébergés, donc ce qui nous permettait à la fois de bénéficier des infrastructures en termes de recherche de l'université, mais aussi pour nous d'avoir accès à ces infrastructures quand même à un coût amorti. Voilà, assez rapidement après, on a acquis nos propres locaux. Cette serre dans laquelle nous sommes présents est venue plus tard, enfin Jean-Paul vous racontera tout ça. Et aujourd'hui nous sommes 16 ans plus tard, donc la société emploie, je pense qu'on doit être à peu près 65 personnes chez PAT. En fait PAT c'est devenu un groupe, puisque nous avons ce site de production et de recherche qui est donc sur la Ronx dans l'Unévillois. Nous avons le siège social de la société qui est à Vendeuvre, à quelques encablures du campus santé sur Brabois, et pour nous c'était très important de rester inséré, enchâssé un peu comme une pierre dans cet environnement qui continue de nous faire progresser. On a beaucoup de partenariats avec l'université de Lorraine, avec divers laboratoires de l'université, faculté de médecine, faculté de pharmacie, école d'ingénieurs, faculté des sciences. On a bourgeonné aussi au-delà de la Lorraine, puisque nous avons maintenant des filiales, une filiale sur l'île de la Réunion qui nous permet d'accéder à des plantes exotiques, rares, précieuses, puisque c'est un peu le moteur de notre innovation et des produits qu'on développe. Également, on a une société en Belgique qui est à l'autre bout de la chaîne, qui réalise des tests biologiques sur des cultures de cellules, sur des tissus qui le reconstituent. Et puis on a également une société à Rochefort-sur-Mer dans le domaine de la coloration à partir de pigments végétaux. Et enfin on a créé deux nouvelles sociétés, deux nouvelles start-up on peut dire sur les locaux du siège social. Une start-up spécialisée dans le domaine pharmaceutique qui s'appelle Temisys, et une start-up spécialisée dans le domaine des nouvelles technologies de fermentation, on pourrait y revenir si vous voulez, qui s'appelle Selengo. Voilà, donc nous sommes aujourd'hui PAT et 5 filiales, 65 personnes, mais Jean-Paul, tu peux...
Ben en moins de 20 ans, c'est quand même une très très belle progression, quoi.
On a plutôt tendance à regarder ce qui nous reste à faire,
ouais,
que ce qu'on a fait, mais... Ouais. Mais oui, c'est clair qu'on a fait des choses, mais on ne s'arrête pas là, quoi. C'est pas notre manière de voir les choses. Les molécules sur lesquelles nous travaillons, que nous découvrons, sont principalement des molécules de défense chez les plantes. Et ces molécules les fabriquent justement pour se défendre contre des agressions qui peuvent être des attaques de champignons, de bactéries. Parfois aussi pour lutter entre plantes, entre espèces végétales, les plantes se font la guerre, quoi. C'est une guerre chimique assez silencieuse pour nous les humains, mais c'est une guerre assez impitoyable. Et donc en fait, on a deux projets différents, un projet de découverte de molécules naturelles qui auraient des activités fongicides, C'est un projet qu'on fait avec un partenariat, dans un partenariat avec une société enfin, très établie dans le domaine de la protection des végétaux. Et puis on a un autre programme de découverte, cette fois-ci d'herbicides bio, qu'on réalise avec un laboratoire de l'INRAE de Dijon, qui est un des meilleurs laboratoires au monde sur cette question. Et donc là, dans nos programmes, nous découvrons des molécules. Et notre projet, c'est de les tester assez rapidement, après avoir validé une première étape en laboratoire et en serre, c'est de les tester en fait au champ, au travers de partenariats qu'on a noués avec l'interprofession agricole, notamment un institut technique qui s'appelle Arvalis. Donc notre idée, effectivement, c'est d'apporter, comme on le fait en cosmétique et comme on le fait aussi, on espère le faire en pharma, apporter des solutions opérationnelles aux problèmes de l'agriculture actuelle. Les molécules sur lesquelles on travaille, on pourrait se dire, mais pourquoi finalement est-ce que les molécules naturelles ont un avantage par rapport à des molécules dites classiquement pesticides? Alors il y a de nombreux avantages, notamment les molécules naturelles sont des molécules très rapidement biodégradables. Donc ce sont des molécules qui ne persistent pas, très fugacement dans l'environnement. Donc ce sont des molécules qui impliqueront, si on arrive à les mettre sur le marché, ce qu'on appelle les modifications de pratiques chez les agriculteurs. Ils ne pourront pas les utiliser comme des molécules standards qu'ils ont l'habitude d'utiliser, mais ce sont des molécules qui ont une capacité à protéger les végétaux et à remplacer, je dirais, des pesticides d'ancienne génération, sans qu'on en ait la majorité des problèmes associés, c'est-à-dire notamment la rémanence, les traces qu'on trouve dans l'alimentation, dans les nappes phréatiques, etc. Donc on est persuadé que les plantes contiennent elles-mêmes la solution à la protection des végétaux en agriculture, et on va essayer d'amener des produits vers le marché.
On est impatients de pouvoir tous en profiter. Merci de cette présentation, c'est vraiment incroyable de savoir qu'on a ce savoir-faire, cette innovation sur le territoire. On va aller dans une deuxième partie où on va parler plus largement de l'innovation avec l'Université de Lorraine notamment. Merci et à tout à l'heure. Vous écoutez RCM, vous êtes au cœur d'une nouvelle émission baptisée La Voix de l'Écho, réalisée en collaboration avec la communauté de communes du territoire de Lunéville-la-Baccara, une série d'émissions décentralisées, un studio installé au cœur de sociétés à l'aura nationale, internationale, basée sur le territoire du Lunévillois. Et pour la première, nous sommes une société de biotechnologie végétale produisant des actifs innovants et rares à destination des marchés cosmétiques, pharmaceutiques et agrochimiques. Et dans ce contexte, nous allons parler du génie végétal et innovation verte sur le territoire. Mes invités, Pierre Mutzenhardt, président de l'Université de Lorraine, Jean-Paul Fèvre, président de PAT, Frédéric Bourgaud, directeur général délégué à la recherche et à l'innovation, cofondateur, Bruno Minuciello, président de l'intercommunalité de Lunéville-la-Baccara, et Jacques Lamblin, premier vice-président délégué au développement de l'industrie, la santé et la promotion du territoire. Bonjour à vous.
Bonjour.
Pour ceux avec qui on n'a pas encore échangé. Pour rappel, l'Université de Lorraine, ce sont 62 000 étudiants, 42 sites géographiques, dont Lunéville, et une large place à la recherche et à la formation. C'est quoi l'état des lieux de cette filière au sein de l'université?
Alors, sur la partie, je dirais, il n'y a pas beaucoup d'universités en fait qui ont une partie agronomie dans le monde. C'est pas toujours quelque chose qui est couplé à l'université, donc on est plutôt bien placé au niveau mondial. On a deux volets. Un volet que je vais citer, mais après on va se concentrer sur celui pour lequel on est là. Un volet qui est forêt bois, qui est très développé avec INRAE, où on a je dirais une force à toutes les échelles, puisqu'on va des champignons dans le sol, qui est de l'arbre à pousser, aux grands écosystèmes, avec des collègues qui vont même voir des forêts comme les grandes forêts amazoniennes ou les grandes forêts africaines. Et de l'autre côté, et en complément, je dirais des laboratoires qui eux sont dans le domaine de l'agronomie, des biotechnologies végétales, avec là aussi plusieurs laboratoires qui traitent à la fois les plantes, le sol et beaucoup se sont orientés vers justement les molécules et les processus qu'on trouve au niveau des plantes. C'est ce qui a donné cette découverte qui a permis à Pat de se créer. Et là aussi, on est plutôt très très bien placé, à la fois en Lorraine, mais à la fois en région. Je rappellerai que la région veut développer la bioéconomie sous toutes ses formes, et c'est une la valorisation, je dirais, non alimentaire des végétaux, c'est une forme qui est très très employée et très, il y a beaucoup de recherches dans le domaine.
Encadrement scientifique, plus de 1800 doctorants, futurs chercheurs, cadres supérieurs. Vous avez senti une hausse d'intérêt dans l'innovation dernières années?
Ouais. Il y a déjà l'innovation, tout à l'heure Frédéric le disait, je pense qu'il y a eu un tournant au moment des années 2000 où on a arrêté de faire la frontière entre le monde académique et le monde socio-économique en ouvrant les possibilités de développer des startups. L'incubateur Lorrain, c'est une des premières, je pense, sociétés qui a été incubée à l'incubateur Lorrain, a été créée par Claude Allègre, qui a été celui qui a fait les premières lois qui ont changé cet état d'esprit. Après, c'est un état d'esprit, mais là, il a évolué, et dans les 10 dernières années, il a formidablement évolué. On a des jeunes, on a des chercheurs qui ont envie d'avoir un impact de leur recherche, un impact de leur vie, un impact sur la société. Président de l'université, il va dans le sens là. On crée ces dynamiques, on en a besoin, avec un équilibre aussi, parce que pour être bon en recherche, il faut quand même être bon dans sa discipline. Donc on a aussi besoin en formation et en recherche d'avoir des piliers disciplinaires qui soient solides.
Et du coup, avec une recherche fondamentale et appliquée sur la gestion durable des ressources, la santé, le vieillissement, une société comme PAT vous intéresse forcément. Il y a des liens qui sont faits régulièrement entre vous, entre vos deux...
se voit. Je crois que c'est un bon exemple dans un couple innovation, création, enfin la recherche qui crée. Cette création, c'est pas à l'université d'en faire profiter, c'est au monde socio-économique. Donc on passe dans le monde socio-économique et après on est sur les territoires. Et ça, c'est le moteur qu'on doit avoir maintenant et qu'on développe de plus en plus. Donc on se voit souvent parce que notamment les entreprises de biotechnologie ou de technologie, sauf peut-être celle du numérique, elles restent généralement au contact des universités où les choses se sont créées, parce que c'est l'équipe de recherche qui a amené un certain nombre de choses. Elles ont besoin de se diversifier, il y a d'autres équipes de recherche, d'autres universités qui peuvent contribuer, mais le noyau de la créativité, de l'innovation, il s'est fait là. Donc elle reste en proximité, on a toujours des échanges très réguliers, je pense qu'on se voit plusieurs fois dans l'année, et surtout les équipes ont ça. Et puis l'université aussi, je le disais, elle a tout un tas d'appareillages relativement coûteux dont ces entreprises ont besoin et qu'elles ne pourront pas acquérir, même dans le temps, ou alors faudrait on leur souhaite de devenir très très grosses. Puis ça n'a peut-être pas un intérêt fou non plus pour elles. Et nous, on les a à la disposition, on fait de la prestation de service. Donc tout est très encadré et tout va bien. Et l'autre volet, c'est que, on va le dire quand même, en Lorraine, la R&D privée, c'est pas ce qui court le plus les rues. Il y a un gros site qui l'emmène dans le domaine de la métallurgie, quelques autres entreprises qui font de la R&D. Et moi, j'ai toujours dit depuis 10 ans que c'est à l'université de créer des entreprises qui vont créer de la R&D, qui vont créer de la richesse. Pas un peu plus vieille que ça, plus dans... mais c'est exactement le modèle que l'on doit avoir, avec un retour sur le territoire et sur tous les territoires. C'est pas... enfin, mettre des serres à Nancy, c'est possible, c'est moins facile. Et puis même, moi j'ai d'autres exemples dans les Vosges, une entreprise qui fait des lunettes en bois, on a des jeunes qui veulent s'installer autre part que dans le milieu urbain, ils ont développé une société, ils doivent être 15 ou 20. Donc voilà ce qu'on peut redonner au territoire, et après on continue à collaborer avec eux, et c'est un effet d'entraînement pour le développement économique et la qualité de vie sur les territoires.
Et alors, où aller parmi ces 42 sites universitaires pour la recherche et la formation? Il y en a qui sont dédiés, ou chaque université a sa propre...
Alors, il y a une université et 42 sites, donc c'est pas chaque université.
Oui, pardon, chaque
voilà.
site. Oui, oui.
Je dirais que ça dépend de l'implantation des laboratoires. Si on prend le secteur dans lequel on est, qui est très lié à INRAE, l'organisme national sur la recherche en agronomie, on est plutôt situé sur Nancy, Champenoux, en termes de laboratoire de recherche, de formation avec l'ENSAIA, qui fait un pendant de formation, des masters et des licences. Si je prends la métallurgie, qui est un autre pendant, on va être en grande partie, par exemple, sur Metz. Donc, voilà. Bon, le fait, je sais que je suis dans un territoire qui tient à l'enseignement supérieur, le fait de la recherche, il est quand même métropolitain parce que nos instruments sont très, très chers. Mais les fruits de cette recherche peuvent alimenter le territoire partout. C'est ici un très bon exemple dans cette communauté de communes.
Justement, Bruno Minucciello, la recherche et l'innovation sera donc un levier de croissance et de développement pour l'intercommunalité. On entend bien, on le comprend bien.
Je pense que la recherche et le développement est toujours un levier de croissance. Et comme le disait donc le président de l'université, c'est au service et ça doit se mettre au service de l'économie. Le pont qui a été créé il y a quelques années, elle est importante pour les territoires et notamment pour le développement industriel français. On rayonne aujourd'hui, on voit bien, on est ici dans le territoire, en plein milieu du territoire de l'Univille-la-Baccarat. On a une société qui rayonne au niveau international et grâce à l'innovation et grâce à la recherche qui a été développée au sein même de l'Université de Lorraine. C'est un bel exemple. Je pense qu'il faut soutenir ces exemples, alors autant financier qu'en termes de rayonnement, et j'espère que ça deviendra un exemple pour plein d'autres process sur les territoires.
Et on rappelle que l'intercommunalité a la compétence économie et oui. Vous proposez un accompagnement humain, matériel et financier au projet.
C'est cela.
Ouais.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que ce qu'on propose, c'est en partenariat avec les autres, ce qu'on appelle les cofinanceurs, hein, ou même au sein de la région Grand Est, c'est s'associer pour pouvoir aider par des moyens humains, par des moyens au sein de financement de matériel à travers les fonds de la région, pour pouvoir développer sur les territoires l'économie industrielle, mais pas que industrielle, l'économie de l'agriculture, l'économie de la santé, en fait, tout ce qui crée la richesse des territoires.
Et PAT est parti d'une start-up. On rappelle, Jacques Lambin, qu'il y a des pépinières d'entreprises aussi qui sont un vivier important pour la recherche et l'innovation. Il y en a une à Moncel et Lunéville, il faut le rappeler.
Alors, la pépinière d'entreprise, c'est un petit peu un domaine complémentaire.
On va dire,
effectivement, ça permet à ceux qui veulent se lancer d'avoir un environnement qui leur facilite la vie au départ.
Mmh.
Mais c'est pas forcément de l'innovation, hein, c'est simplement des personnes qui décident de créer leur entreprise. En revanche, il a été dit que durant notre entretien, que la bioéconomie était un domaine intéressant à développer et que la région Grand Est tenait à soutenir ce développement de la bioéconomie. Je pense qu'effectivement, c'est une ressource qui a longtemps été oubliée ou classée au second rang par rapport à d'autres process plus industriels, mais que c'est une voie de l'avenir. C'est la première réaction qui est la mienne en écoutant ce qu'on vient d'entendre. Et puis, il y a un autre élément qui me semble très important, c'est qu'on peut déconnecter cette volonté de développer la bioéconomie ou ce partenariat entre la recherche, l'université et ceux qui veulent tirer parti des découvertes en développant une entreprise. On peut déconnecter ça du lieu où l'on réalise ou on met en place l'entreprise. Il ne faut pas oublier qu'un territoire comme le nôtre était un territoire industriel il y a 50 ans. Il y avait des usines, des entreprises industrielles, textiles, chaussures, cristal, faïence, etc. Il y en avait partout. Hein. Il y avait 15 000 emplois industriels dans notre arrondissement. Il en reste 6. Et ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ce qui était possible naguère, c'est-à-dire d'avoir sur place, un peu partout, diffusé sur le territoire, de l'activité économique et industrielle, eh bien, c'était possible il y a 50 ans et ça redevient de nouveau possible parce que, je répète, on peut déconnecter les centres de décision, des centres de production beaucoup plus facilement aujourd'hui, surtout avec des technologies comme celle-là, qu'avec d'autres.
C'est un peu comme l'Université de Lorraine avec tous ses sites géographiques, c'est aussi pour s'implanter au cœur des territoires, pas forcément monter à un site, quoi.
Alors, je pense que dans l'histoire de l'Université de Lorraine, on a vu que cela a résulté, les différentes implantations ont résulté d'aménagements du territoire qui ont été voulus par l'État à un moment. Je pense que dans ce qui vient d'être dit, il y a quelque chose qui est important, c'est que je pense qu'on a un changement. Alors il y a un changement où Pat est précurseur, parce que finalement économie circulaire, verte, molécules non chimiques, etc. Il faut se rappeler, création de la société 2005. Mmh. Je ne pense pas qu'on en parlait avec la même acuité que maintenant. Mmh. Et donc là, voilà, on espère beaucoup de développement de ce point de vue-là, elle montre la voie. Et puis, sur la question de la production industrielle va changer. Les impressions 3D, ce type de société ici, où bon, on peut toujours faire du big en termes de production, mais il faut que ça ait un sens aussi. On peut délocaliser beaucoup plus facilement les productions dans les territoires. Et ça, c'est un vrai intérêt. Et je pense qu'on... Enfin, moi, je suis un peu inquiet de voir... faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. C'est, je pense que Pat l'a dit aussi, hein, filière cosmétique ou d'autres filières. Mmh. De la même manière, quand on voit ce qui s'est passé en biotechnologie, justement, à Liège, où il y a plein de sortes d'entreprises de biotechnologie autour de Liège. Je parle de Liège parce que c'était aussi la conversion industrielle. Nous, en France, on met des grosses usines à un endroit, quelquefois sans R&D, ça c'est une erreur. Puis 20 ans après, il se passe ce qui se passe, hein. On l'a vu sur nos territoires industriels du nord de la Lorraine-Haute, alors qu'il y a certainement à implanter des sociétés peut-être plus petites, plus dynamiques, avec de la R&D et de la production d'une autre manière. Et là, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Mais il faut un peu changer les logiciels aussi.
Et justement, alors parlons un peu emploi. Chez vous, vous avez des besoins, puisque vous êtes en croissance, vous avez des besoins d'emploi, des emplois spécifiques. Comment ça fonctionne?
On a recruté hier, enfin deux nouvelles personnes sont arrivées chez nous hier, lundi. Donc ouais. On vient de recruter hier, à partir d'hier, une jeune ingénieure spécialisée en ce qu'on appelle les procédés industriels. Donc c'est la mise en œuvre de machines que nous avons ici sur le site de la Ronx, dans une partie attenante à cette serre. En fait, ça permet de préparer les produits que nous livrons à nos clients industriels, dans le domaine de la cosmétique par exemple. Donc cette personne, Jeanne, qui a démarré hier, en fait est issue, c'est son premier emploi. C'est une débutante et... elle démarre avec nous, et l'autre emploi qui démarre chez nous hier, c'est nous avons un nouveau directeur général à la tête de notre filiale pharmaceutique. Voilà, donc là, quelqu'un de beaucoup plus capé qui a un parcours au départ dans le domaine de la banque et qui vient prendre la tête de notre filiale, justement parce qu'il y a des enjeux financiers importants, et notamment, Jean-Paul le disait, des levées de fonds un peu... à faire de l'ordre d'une dizaine de millions d'euros, et ce sont des mécaniques financières qui demandent un vrai savoir-faire. Donc voilà deux exemples types d'emplois qui démarrent chez nous au jour d'hier, avec deux profils de personnes complètement différents. Donc quelqu'un qui débute et quelqu'un de confirmé qu'on a réussi à attirer chez nous. Le défi de notre société n'est pas tellement différent de ce que j'entends ailleurs sur le territoire lorrain. On a besoin de recruter des gens de talent, on y arrive, la preuve, on arrive à attirer des gens, que ce soit des débutants ou des gens confirmés de haut niveau. Je dois dire que, par exemple, le cadre de vie de l'agglomération nancéenne, par exemple, c'est quelque chose qui compte beaucoup. Mais également, on a des gens qui sont attachés aujourd'hui, si je parle des plus jeunes qui nous rejoignent, le profil des milléniums, comme on les appelle, comment dire, les valeurs qui les motivent, sont leurs valeurs, ils ont leurs valeurs propres. Pour eux, être dans une entreprise qui fait sens, qui participe à un mouvement sociétal autour de l'engagement pour l'environnement, la préservation, les valeurs écologiques, c'est quelque chose de très important. Et nous, je dois dire qu'on n'a pas trop de difficultés à recruter des gens de haut niveau, même si ça reste un travail permanent, et il faut se faire connaître aussi, ouais, sur les réseaux sociaux, etc.
Ouais. Peut-être, si je peux me permettre, je pense que, parce que c'est une des discussions qu'on va avoir notamment avec les collectivités,
c'est que les entreprises bon, issues de l'université qui restent branchées sur l'université, Frédéric qui était professeur à l'université, il connaît les filières de formation, mmh. il sait où envoyer les demandes d'emploi là, que ce soit à l'université ou ailleurs. Ce qui n'est pas vrai pour d'autres entreprises des territoires qui, elles, n'ont pas forcément cette connexion directe, et c'est pas en publiant, je dirais, dans les grandes banques qui sont là, qui vont trouver des gens qui vont venir à proximité, notamment dans les territoires en dehors des métropoles. Et c'est là qu'il faut qu'on fasse un branchement direct via les collectivités entre ces entreprises qui ont des besoins en ce moment de recrutement, y compris de diplômés, hein, parce qu'on est quand même cadre intermédiaire mmh. au niveau de l'université, via les U, directement entre ces entreprises qui connaissent pas l'université et les diplômés, et puis l'université. Faut faire un circuit court.
Bah, je pense que là, il est temps de conclure, on est vraiment dans cette mouvance voilà, vertueuse, verte, socialement aussi, humainement. Donc, a priori, votre croissance est. Vous êtes vraiment dans le bon trend. Et avec l'Université de Lorraine, vous aurez un vivier aussi important de prochains collaborateurs. Et au niveau de l'intercommunalité, bien sûr, c'est de les déceler aussi, puis de les accompagner vers les bonnes portes. Voilà, c'est un travail d'équipe, vous êtes tous là pour le prouver aujourd'hui. C'était vraiment très intéressant cette première émission décentralisée. Il y en aura d'autres. Et merci en tout cas d'être venu. Enfin, merci à vous de nous avoir accueillis parce que c'est nous qui sommes venus au cœur de Vauxerre.
Avec plaisir.
Et vraiment bonne continuation.
Merci beaucoup.
Merci à Pat.
Merci de votre visite.
À bientôt.
Merci.